Bonjour et bienvenue sur Comic City, je suis Steve.
Et je suis Monsieur Henné Bunny.
Épisode numéro 38 des reviews des sorties françaises du mois, deuxième partie du mois d'août. Comme toujours, un podcast qu'on essaye de réduire un peu, donc seulement 6 parutions différentes françaises. Il y avait le choix hein, ce mois-ci, on a été obligé de vraiment tailler dans le gras et devoir
tailler
prendre
dans le gras.
devoir prendre ce
on
qui
a,
nous paraissait le plus
tranché du
intéressant.
Jambon là, on a tranché du jambon. On y allait là. Sans prendre de gants, comme ça, à la barbare.
Ouais, on est comme
le
ça, on est des
sac.
Fous. On est des fous. Que du Panini cette fois-ci. Hein. Pas de Delcourt, ni de Milady.
Panini au jambon.
Voilà, tu vois, on y reste.
Mais oui, non, mais c'est pour ça que c'était une super blague.
Ça commence bien ce podcast. Et on va commencer d'ailleurs tout de suite par les news. Jingle news. D'accord, ça t'a tué.
Ah mais non, mais je pensais que tu disais ça parce qu'on allait mettre un jingle news.
Non, non, c'était le jingle à la bouche.
D'accord, très bien. Faut faire les économies maximum en ce moment, c'est la rentrée, il va y avoir des dépenses, donc...
C'est la crise, comme on dit partout.
Voilà.
Bah écoute, je te laisse commencer les news avec du ciné, comme toujours.
Oui, enfin du ciné, non, pas tout à fait, au fait, la bande-annonce au fait officielle de la série Walking Dead. Voilà, donc c'est pas vraiment du ciné, c'est plutôt de la télé. Ça débarque à Halloween, je crois, le season premiere.
Oh, mais qu'est-ce que c'est bien dit.
T'as vu ça un petit peu, je me suis entraîné toute la journée. C'est pour la soirée d'Halloween.
Ouais, mais ça colle très très bien au thème.
Bah oui, non mais totalement. Donc préparez votre Halloween cette année parce qu'il sera très bien fourni en tout cas. Puisque à mon avis, le premier épisode... Enfin, les deux premiers peut-être vont-ils nous diffuser ce soir-là, je ne suis pas sûr.
Je sais pas, moi que ce soit un pilote qui fasse 1h30.
Peut-être. Donc bah, en tout cas, ce soir-là, donc les débuts de la série Walking Dead, il y aura 6 épisodes au total. Et bah la bande-annonce, au fait, est enfin disponible. Alors on avait aperçu une bande-annonce au Comic-Con.
Bah, c'est exactement la même.
C'est exactement la même, oui, mais en bonne qualité cette fois-ci.
Oui. Donc, ça repose les yeux d'ailleurs.
Oui, ça change tout. Vas-y, écoute, qu'est-ce que t'en as pensé du coup de cette bande-annonce?
J'ai trouvé ça super prometteur, vraiment super prometteur. Bon, à mon goût, on n'en voit pas assez, mais c'est normal, c'est censé être une bande-annonce. Hein. Ça te donne envie, mais t'es pas censé avoir vu tout le film, pas comme les bandes-annonces d'aujourd'hui. Petit tac, la Thor, tu sais, sa bande-annonce.
Oui.
Au passage.
Le film.
Voilà. C'est vrai que ouais, on a envie d'en voir plus. On voit peut-être pas assez les zombies, donc. J'ai toujours une petite crainte quand même si ce qu'on voit dans la bande-annonce est vraiment bon, j'ai quand même une petite crainte à ce niveau-là. Mais sinon, ouais, ça a l'air vraiment bien dans la bonne ambiance. Voilà. Ce que le seul petit point noir, j'ai peur que la scène de départ, avant que Rick se fasse tirer dessus, soit un peu longue. Alors que dans le comic, elle est quand même rapidement expédiée.
Ou bien alors ils nous font croire ça avec la bande-annonce et au fait on passe très vite dessus.
Peut-être qu'ils nous ont montré toute la scène en entier, c'est aussi possible.
Ouais, j'espère que dans la bande-annonce, au fait, c'est surtout des passages des 20 premières minutes, parce qu'on nous montre pas mal de choses, mais finalement c'est surtout des scènes avec Rick, hein, tu remarqueras.
Oui.
Et j'ai l'impression que c'est sa première échappatoire des zombies, quoi, en fait. La première fois qu'il essaye de les éviter. Et on le voit d'ailleurs.
On le voit aller jusqu'à Atlanta hein, quand même, parce qu'on le voit dans Atlanta. Je crois que c'était Atlanta, la première ville.
Ouais, mais on voit surtout, tu sais, toute une scène où il se réfugie dans un tank. Alors cette scène n'est pas dans le comics, je crois.
Ouais, elle me dit rien du tout, moi non plus.
Ça me dit rien du tout, mais en tout cas, elle est bien pensée, et puis voilà. Bon, alors, ce qui est un petit peu perturbant, c'est peut-être la musique, le choix de la musique de la bande-annonce, qui est un peu un peu bizarre, mais en même temps...
Oui, parce que
ça.
Quand on lit un comic, on a la musique que l'on choisit à la rigueur dans les oreilles, si on écoute de la musique en même temps, ou pas de musique du tout. Et là, c'est vrai que d'avoir de la musique, ça perturbe un peu.
Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà. Et puis, mais en même temps, ça rajoute un petit peu ce sentiment de malaise, puisque c'est pas une musique, tu vois, effrayante, ni atroce, ni. C'est plutôt une musique assez reposante, assez douce. Et voilà, quoi. Ça colle pas du tout avec ce qui se passe.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr.
Donc ça renforce ce sentiment de malaise qu'on ressent très bien dans la bande dessinée. Donc voilà.
D'ailleurs,
Et puis.
en même temps que tu en parles, un truc qui m'a sauté à la tête, ça ne m'a pas dérangé du tout la couleur.
Ah non, moi non plus. Non, moi pas du tout. Mais en fait, j'avais peur au début qu'ils n'arrivent pas à rendre correctement les zombies, etc. à l'écran, que ça soit un petit peu ridicule. Mais en fait, là, les zombies, c'est. Bah d'ailleurs, les zombies sont gris, on va dire. C'est pratiquement eux qui font le noir et blanc, j'allais dire, de la série, quoi. Mais non, mais enfin, ils sont super bien faits, quoi. Enfin, c'est impressionnant. J'espère que le budget sera égal pour toute la série. En fait, qu'ils vont pas nous foutre des super trucs dès le début et puis ensuite qu'il n'y ait plus rien pour la suite.
On
Mais
va
moi,
sur 6 épisodes quand même.
ouais. Et sachant que la saison 2, enfin, la saison 2 est signée et
Ils avaient
on devrait
dit
avoir
si
une
ça
saison 3.
marche, mais finalement, je crois qu'il y a eu tellement d'engouement pour le projet avant même qu'il soit démarré qu'ils ont dû se dire il y aura du monde qui va suivre, donc autant en signer une saison 2 tout de suite.
Bon, j'imagine par contre que ça n'ira pas plus loin que la prison.
Ah, sait-on jamais, puisqu'on en est quand même au numéro 78 aux États-Unis, donc il y a de quoi faire, hein,
Oui, non, mais
encore.
enfin, je parle pour les 6 premiers épisodes.
Ah, pour les 6 premiers épisodes. Ah oui, d'accord. Je croyais que tu parlais
Ouais,
pour
je
jusqu'à la
pense
fin de la
qu'on va
saison
avoir le
2.
droit à la prison. Donc après, effectivement, pour le budget décor, ça devrait pas être trop problématique. Ce sera surtout pour le budget figurant, à mon avis, que ça va être autre chose.
Reste à savoir combien d'épisodes aura cette deuxième saison.
Ah, peut-être que oui. Enfin, je pense que ça sera toujours 6, mais ils peuvent nous
Ah,
faire.
ça dépend puisque les séries AMC, Le Prisonnier avait 6 épisodes, mais des séries comme Breaking Bad ou Mad Men, par exemple, ont beaucoup plus d'épisodes. Ils ont, je crois, 13 épisodes par saison.
Oui, c'est vrai que ce serait pas la première fois qu'une série augmente d'épisodes en passant à
Ah
la
oui,
deuxième
non,
saison, quoi, en fait.
c'est très fréquent puisque généralement on fait des saisons test et
Ouais.
quand on a une bonne réponse du public, on fait des saisons complètes pour les suivantes. Voire
Alors,
même parfois on commande une saison complète en cours, mais voilà, ça arrive aussi fréquemment qu'on ait des petites premières saisons et des saisons longues ensuite.
Eh bien voilà. Donc Walking Dead pour Halloween.
Et
Enfin, pour Halloween, pas chez nous. Pas
on
chez
mettra
nous.
le oui, pas chez nous. Ou
Donc,
alors,
faut
à moins que vous
préciser que.
captiez AMC chez vous.
Oui, voilà. Donc, c'est malheureusement, il va falloir attendre un peu plus, quoi. Mais en tout cas, chez nos amis américains, c'est pour Halloween.
Avec un peu de chance, assez rapidement sur j'allais dire TF1, sur Canal+.
Oui. Et je sais pas si
Aussi.
on peut les citer, mais puisqu'on les a cités, il va falloir citer deux autres chaînes. Donc, TF1 et France 2, par exemple. M6, allez hop, comme ça, c'est bien, on a le quota.
Non, c'est vrai que bah pour Le Prisonnier, ils avaient fait un gros effort. La série était diffusée sur Canal+ environ 3 mois après la diffusion du dernier épisode aux States. Donc c'est quand même assez rapide, qu'avec un peu de chance, peut-être d'ici janvier-février en France.
Voilà.
Dès qu'on a plus d'infos, on vous en reparle de toute façon.
De toute façon, oui, puisqu'on l'attend avec impatience.
Oui, puis on se fera prêter des cassettes vidéo que nous enregistrerons nos cousins américains.
Oui, c'est bien connu. C'est là. Moi, j'ai des mules aussi qui viennent des États-Unis.
Ah, celle-ci est énorme. Bravo, monsieur.
Qui débarquent en bateau à Calais d'ailleurs et qui viennent jusqu'à Paris comme ça, des mules avec des cassettes vidéo scotchées sur le dos.
Après ce joli, comment dire, cette jolie image.
Oui, cette jolie métaphore.
3 autres petites news ciné. Je commence avec Lock and Key, la série de chez IDW, qui a été optionnée par Steven Spielberg et qui aurait confié donc aux soins d'Alex Kurtzman et Roberto Orci, qui ont tous les deux travaillé sur Fringe et Star Trek,
Ouais.
ainsi qu'à Josh Friedman, qui a travaillé sur Sarah Connor Chronicles,
Mmh.
la tâche d'écrire une adaptation du comic book pour la télé.
Ah,
Donc,
d'accord. Bah,
voilà.
c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque l'équipe c'est quand même une équipe de pas mal.
Oui, voilà, voilà, ce sont des gens quand même connus qui ont travaillé dans le milieu de la série, donc voilà, c'est pas des débutants, disons.
Oui, c'est pas des manchots, quoi. Ils débarquent pas comme ça. D'accord, bah, c'est très bien.
Donc on verra peut-être une adaptation d'un comic supplémentaire à la télé.
Qui devrait arriver de plus en plus avec les nouveaux comment dire secteurs sections, je sais pas comment on dit chez Marvel et chez DC qui s'occupent de la tout ce qui est adaptation de télé,
Oui,
etc.
oui.
Ça a été un petit peu la guerre entre les deux grands, donc aussi bien la télé que sur le digital, donc voilà. C'est plutôt pas mal.
Bon, pour le moment, aucune précision quant à savoir si ça va être du film ou de l'animation. Je pense que ça va être plutôt un truc live,
ouais.
Mais on sait jamais. Autre news, apparemment Marvel aurait décidé de relancer le projet Iron Fist. Alors, ils avaient essayé dans les années 90, fin des 90, début des 2000.
En direct ou vidéo, non?
En fait, apparemment, Ray Parker, donc qui avait joué Darth Maul, qui avait joué aussi Todd dans X-Men, devait jouer le rôle d'Iron Fist à l'époque. Mais bon,
d'accord.
Le projet avait été complètement annulé. Et apparemment, les studios Marvel auraient confié à Rich Wilkins la tâche du scénario. Alors, Rich Wilkins, il a écrit des scénarios de fou. Hein. Il a écrit Triple X.
Ouais.
Voilà.
Tu as beaucoup aimé Triple X?
Ah, non.
Non, d'accord. Vraiment non, parce qu'il y en a qui ont aimé, hein, mine de rien.
Oui, non, mais moi, c'est pas du tout.
Qui se dénonce.
Et il a aussi écrit un autre film que, là, par contre, je connais, que j'avais beaucoup apprécié, Radio Rebels.
Ah ouais.
Alors, un film complètement fou avec Brendan Fraser, Steve Buscemi et Adam Sandler.
Oui, oui. Bah, de toute façon, dès qu'il y a Steve Buscemi dans un film, faut regarder quand même.
Voilà. Et bon, c'était une histoire de trois gars qui avaient un groupe de rock et qui voulaient se faire connaître et qui prennent en otage une station de radio.
Oui.
Voilà. Donc c'était vraiment un film complètement fou, mais c'était très drôle.
C'est comme, comme nous d'ailleurs, hein, pour enregistrer nos podcasts, on prend en otage une station de radio, au fait, à chaque fois.
Voilà. Une différence. Donc voilà. Bon, on verra bien ce que ça donne. Quoi. Là, j'ai un peu moins confiance dans le projet. Quoi. Bizarrement.
Oui.
Voilà, bon, à voir si, si ça va pas être encore une fois abandonné. Hein.
Ouais.
On verra bien. J'ai gardé le meilleur pour la fin.
Ah, bah écoute, je l'attends avec impatience, là. Tu m'as promis quelque chose de grand, alors je t'écoute.
Un futur reboot des Tortues Ninja.
Youhou !
Prévu en salle pour 2012.
Oh là là. C'est vraiment la fin du monde, hein. C'est la fin des haricots et des pizzas aussi.
Et donc le studio qui produit, c'est Paramount Pictures.
Oui.
Et ils auraient confié la tâche du scénario à Art Markum, pardon, et Matt Holloway, qui ont tous les deux écrit des scénarios pour des films adaptés de comics, et notamment Iron Man, hein, pour faire grand.
D'accord, ouais.
Enfin,
bon,
en tout cas, ils font partie du pool des scénaristes.
Bah, très bien.
Et Punisher Warzone.
Ah, pas bien. Pas bien du tout.
Ah oh, si, bien, bourrin, bien.
Oui, enfin, bien pour soirée pizza entre potes.
Ce qui colle tout à fait avec les Tortues Ninja, d'ailleurs.
Oui, d'accord, oui, effectivement. Et c'est pour ça, d'ailleurs.
Peut-être que les Tortues Ninja, en mangeant une pizza, ont regardé Warzone.
Ça m'étonnerait pas, d'ailleurs, ils pourraient faire ce clin d'œil-là, d'ailleurs.
Et à savoir qu'aussi, ces deux messieurs travaillent actuellement sur un autre reboot, celui d'Highlander.
Oh, mais que de bonnes nouvelles. Voilà. C'est formidable.
Qui sera produit par Summit Entertainment, qui dirige la franchise Twilight.
Oh, mais c'est de mieux en mieux.
Voilà. Donc après ce moment de rigolade, on va passer à tout autre truc. Bon, je sais pas, moi les Tortues Ninja, ça me fait rire. Quand même. Donc,
Oui, c'est vrai que puis c'est de grands souvenirs. Moi j'ai vu les deux premiers au cinéma. Hein.
Oui, moi aussi.
Ouais, enfin je sais pas s'il y en a eu d'autres, mais en tout cas les deux premiers, je les ai vus à l'époque.
Trois, où ils revenaient dans le passé à l'époque des samouraïs.
Ah non, ça j'ai pas vu ça par contre.
C'est une merde.
J'étais trop grand là déjà d'un seul coup.
C'était une merde.
Oui, mais les deux premiers aussi quand même
en
statut. Quand même.
Les deux premiers sont géniaux, surtout le 2.
Ah, le 2 avec la transformation à la fin, avec l'espèce de monstre là, espèce de monstre poilu.
Et quand même avec en super méga guest star à l'époque Vanilla Ice. Bon aujourd'hui tout le monde l'a oublié mais.
Oui, non mais c'était pas le 2 avec Super Shredder où il se transformait à la fin.
Si je crois, ouais. Je crois que c'est ça.
Je l'ai vu en vacances, je crois que c'était en 91. Voilà. C'est une belle journée.
Mais j'attendais une suite en fait.
Alors attends. Alors je vais rajouter même une couche. C'était dans une station de sport d'hiver, enfin de sport d'hiver et donc de montagne quoi en fait, parce que c'était l'été. Isola 2000, je crois. Voilà.
Voilà, donc Benny ou la mémoire des détails.
Voilà. Pour ceux qui connaissent le cinéma d'Isola 2000, petite station fort sympathique, eh bien voilà. Je l'ai vu là-bas, les Tortues Ninja 2 à l'époque.
Buddy fait aussi vos brochures de vacances. Bon, on va revenir un peu plus sérieux. Une petite annonce à faire qui passe aussi dans les news. Et là, je vais te laisser en parler, Benny.
Ah bah c'est surtout l'annonce d'Image. Donc alors, on va partir du côté du digital.
Pas l'annonce alors, l'annonce après.
Oui, on va partir du côté du digital pour vous annoncer simplement que Image Comics Il y a une application maintenant, Image Comics, en fait, pour iPhone, iPad, iPod Touch, qui est disponible sur la plateforme Comixology. Donc, comme d'habitude, hein, Comixology, tout le monde passe par là. Mais donc maintenant, eh bien, on peut retrouver du Chew, du Savage Dragon, du Walking Dead, du Invincible, tout ça en digital pour toujours, malheureusement, enfin, c'est toujours les mêmes prix, donc c'est ça tourne autour d'$1,99, donc $2 le comics.
Ah, ça fait cher.
Ça fait toujours un peu cher, effectivement, puisque on le rappelle, enfin, sauf si Image a fait un truc spécial qui permet de passer les comics.
C'est impossible. Mais ça m'étonnerait.
Oui, voilà. Si c'est par Comixology, normalement, c'est pas possible de toute façon. Donc voilà, donc c'est en tout cas
$2 pour de l'immatériel que tu ne peux pas prêter à tes potes, à part en leur prêtant ton iPod, ton iPod, pardon, iPhone ou iPad. Non, pas iPod, voilà, justement, c'est le seul qui y est pas. Donc voilà, ton iPad ou ton iPhone. Donc chose que tu ne vas pas faire.
Bah voilà, ouais. C'est un peu dommage. Contrairement au net, tout ce qui est téléphonie coûte toujours très très cher, quoi.
Voilà. Alors que justement, quand tu utilises la plateforme légale de Marvel, les comics, tu peux les lire sur ton PC.
Oui.
Bon, tu peux pas les télécharger, tu peux les lire, mais tu peux toujours passer ton mail, enfin ton login et ton pass à un pote pour qu'il puisse aller les lire. Voilà. Bon, je sais que c'est pas super super légal de faire ça, de prêter son log et son pass, mais un pote en qui t'as confiance, tu veux toujours le prêter.
Bah de toute façon c'est pas grave, de toute façon tu as payé ton droit de lire, de toute façon il est payé, donc
Mais bon, techniquement t'as pas le droit de prêter ton compte.
Ouais, mais allez, hein, et techniquement t'as pas le droit de demander à des mules aussi de venir avec des cassettes sur le dos, et pourtant il y en a qui le font.
Donc sinon bon voilà, c'est un petit peu dommage. Il y a moins ce côté convivial.
C'est vrai.
En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour Image. Peut-être que ça leur fera connaître un peu plus de titres, et certains titres le méritent amplement.
Alors, ils annoncent quand même, juste pour préciser, du contenu exclusif. Bon, on n'en sait pas plus. Hein. On imagine que ce sera peut-être des previews, des comics en avance d'une semaine, comme Marvel a déjà fait, ou DC aussi. Voilà.
D'accord. Bon, bah tant mieux, hein. Tant mieux pour eux. Moi, je dis qu'ils continuent dans cette voie. Et qui continue souvent cette voie, parce que peut-être que à force ils vont nous faire une guerre des prix, ils vont commencer à les descendre.
Ouais.
Ce sera pas
mal. Ça va sans doute arriver, hein, de toute façon, mais il va falloir être patient en fait sur les comics digitaux. Voilà, c'est vraiment les balbutiements, c'est le début. Attendons encore 1 ou 2 ans et puis peut-être que la situation sera déjà, il y aura beaucoup plus de titres de disponibles et puis les prix vont peut-être être totalement chamboulés.
Je pense aussi ce qui pourra peut-être modifier les prix, c'est un concurrent à l'iPad.
Oui aussi, ouais.
Avec plusieurs plateformes du type iPad où tu peux avoir ce genre d'application, peut-être que là les prix vont commencer à bouger. Ouais. Parce que ça fera un plus large éventail de lecteurs possibles.
Ouais.
Bien, bon, on va passer à toute autre chose, une assez grosse annonce. On a besoin de vous.
Oui, enfin
pas nous, personnellement.
Non, pas nous vraiment, mais si vous voulez allier passion et bonne action.
Oh, mais quel poète!
Quel poète! Vous pouvez venir au LCF 2010, qui, on le rappelle déjà, a lieu les 13 et 14 novembre prochains à Lille, bien sûr.
D'où son nom de Lille Comics Festival.
Voilà, tout à fait. Avec des artistes qui seront là, comme Frank Quietly, Jack Williams 3, il y aura Andy Deagle, Jock, etc., etc., etc. Il y en aura beaucoup.
Phil Bryant.
Phil Bryant également. Beaucoup de monde. Et alors donc, le truc, c'est que c'est déjà la 5e édition du LCF. Et pour que le festival fonctionne, eh bien effectivement, ils ont besoin de bénévoles. Alors si vous voulez être bénévole, sachez que évidemment c'est un peu la tâche ingrate. Vous allez avoir à organiser un petit peu la salle au début, à ranger la salle à la fin, etc., à faire ce genre de choses. Mais en même temps, vous pourrez aussi avoir, voir les différents auteurs en vrai, quoi, les côtoyer un petit peu. Le truc, c'est que il faudra pas le faire durant vos horaires de bénévolat, quoi. Hein,
vous aurez des plages horaires en fait où vous êtes de service entre guillemets.
Et, oui.
En contrepartie, vous ne payez pas l'entrée, par exemple. C'est déjà quelque chose. Vous pouvez passer un peu de temps avec l'équipe qui organise du festival et donc par conséquent avec les auteurs eux aussi. Mais ce qu'on demande, c'est que quand on est en service, on est en service, on n'est pas là pour faire la queue, quoi.
Voilà, tout à fait.
Ce qui est logique, de toute façon.
Oui, ce qui est logique, et effectivement, de toute façon, le LCF a besoin de bénévoles pour fonctionner. Il faut savoir que c'est aussi le seul festival de comics, 100% comics, vraiment comics en France, hein, puisqu'il y a le, bon, bah, il y a le Japan Expo, etc. Mais voilà, il y a aussi du manga, c'est principalement de la science-fiction, du manga pour les autres événements comme celui-là. Et bah là, voilà, l'organisation du LCF, c'est déjà 5e édition, c'est un truc qui fonctionne, mais ils sont moins nombreux que pour le Japan Expo, ils ont moins de moyens. Et pourtant, voilà quoi, ça marche notamment grâce aux bénévoles. Donc encore une fois, bah on aura besoin d'eux cette année. Et bah venez nombreux quoi. Enfin. Si vous le voulez bien, voilà. Sachant que bon alors vous aurez le déjeuner gratuit, nous a-t-on dit. Franco Yotli fera les sandwichs ou pas. Mais en tout cas voilà, ce serait super cool d'avoir un maximum de bénévoles cette année pour nous aider. Vous aurez des avantages évidemment à être bénévole. L'entrée sera gratuite pour vous évidemment et voilà. Et que dire de plus?
Y a pas une litote offerte aussi aux bénévoles?
Ah, je crois, oui. Je crois. Je voudrais pas dire de bêtises. C'est pour ça que. De toute façon, on vous en reparle. Hein. On vous en reparlera assez souvent, puisque.
On vous le rappellera, oui.
Oui, voilà. Mais c'est important. Et surtout, faut préciser que, évidemment, si vous êtes bénévole, par contre, va falloir y venir. Par vos propres moyens, donc ne faites pas non plus un trajet de ouf, ne venez pas de l'autre bout du monde pour le LCF, enfin voilà quoi. Si enfin sauf si vous voulez absolument aider et que vous avez la main sur le cœur. Mais voilà quoi. Faut évidemment préciser que le LCF ne peut pas tout prendre en charge, quoi, évidemment.
Ah, loin de là, oui. Pour être bénévole, si cela vous intéresse, et moi je vous encourage à le faire, c'est une bonne expérience, c'est sympa, donc voilà. Une seule procédure est toute simple. Vous envoyez un mail à Lille Comics Festival 2010, en un seul mot, @yahoo.fr. On mettra l'adresse de toute façon dans les news, sur le site, puisque vous le savez peut-être pas encore. Je ne sais pas si on l'avait annoncé officiellement que nous sommes partenaires du Lille Comics Festival.
Ouhou, les partenaires en bavonnant, vous le savez. Bon bah pour ceux qui auraient loupé l'annonce ou qui mais je enfin remarque
je sais pas si on l'a faite en fait.
Voilà. Donc voilà, bah, on est discret, mais en tout cas bon, vous avez vu quand même Lille Comics Festival, le lien vers le Lille Comics Festival sur notre site sur Comic City. Donc pourquoi ce lien? Bah parce que oui, on est entre autres partenaire cette année. Voilà, donc on devrait tous y être.
Et oui, on y sera tous.
On y sera tous théoriquement si tout se passe bien. Voilà, bon, d'ici le mois de novembre, hein, il peut y avoir ça peut déjà être la fin du monde, mais
on se pète une patte, ça peut arriver. Oui, ouais. Je pense que même un plâtre ne m'empêchera pas de venir au Lille Comics Festival.
Non, moi non plus, non, mais c'est certain.
Et d'ailleurs, je m'engage personnellement à aller serrer la main et dire bonjour à tous les bénévoles qui viendront. Voilà.
Alors ça, franchement,
vous aurez la chance de me serrer la main.
Oui, alors je sais pas si c'était une bonne idée au fait, Steve. On va peut-être voilà. Pas aller jusque là.
Puisque je me la pète ce soir, j'ai décidé de me la péter.
Ouais. Donc si vous êtes bénévole, vous pourrez serrer la paluche de Steve, ce qui est quand même extraordinaire entre nous.
Et oui, c'est pas rien. Et d'ailleurs, j'ai dit que c'était une chance, mais je sais pas si ça va être une chance pour vous.
Ouais. Donc vous êtes prévenu, voilà.
Mais venez. Enfin, si vous êtes dispo, que vous aviez envie de venir au Lille Comics Festival et que vous voulez bien aider, faites-le vraiment. Vous les aiderez, vous vous ferez plaisir aussi parce que vous verrez aussi un petit peu le festival d'un autre œil et vous serez pas bloqué non plus toute la journée de service. Vous aurez aussi des plages pour vous promener dans le festival, bien évidemment.
Oui, puis vous aurez le contact avec les organisateurs, les auteurs, les scénaristes, dessinateurs, nous, enfin bref, tout le staff technique derrière, Pat Le Guen à la caméra, et tout le monde, quoi, vraiment. Le truc, c'est que, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre?
Je ne sais pas.
Oui, bah oui, bah non, mais enfin voilà, quoi. Franchement, le LCF, c'est un festival intéressant. C'est le 5e, il faut qu'il y ait un 6e, un 7e, il faut que ça aille. Ça dure encore des années, donc pour cela, bah, on a vraiment besoin de gens comme vous. Donc viendez si vous nous écoutez et que ça vous intéresse.
Bien, sur cette annonce, on va s'attaquer à nos reviews de cette quinzaine. On commence avec le kiosque. C'est le Marvel Saga numéro 7. Dans ce numéro, nous avons 4 5, pardon, épisodes de Hercule.
Oui,
Nous avons le prologue Assault on New Olympus, qui sert donc de prologue à toute cette histoire, et les épisodes numéro 138 à 141 de la série Hercule.
Voilà.
Incredible Hercule, ce même.
Voilà, Hercule, si je t'attrape.
On avait dit que non.
Oui, mais bon. Ben, donc, on l'a attrapé, en tout cas. On a lu cet Hercule. C'est rare qu'on lise du Hercule, en plus, en français.
Bah oui, mais il n'y en a pas. Donc, voilà. Enfin, si, la seule fois où on en a eu, c'était pendant Secret Invasion. Dans un Monster.
Et pourtant, c'est une série bien fun, comme le prouve. Donc, cette mini-série, enfin, pas cette mini-série, puisque c'est la série régulière, mais comme le prouve ce Marvel Saga, quoi.
C'est un crossover, malgré tout. Les scénaristes, ce sont Greg Pak et Fred Van Manty. Et au dessin, nous avons Rodney Buscemi. Donc, je disais, c'est un crossover, puisque aux États-Unis, il a été présenté comme tel. Le premier crossover en une seule série sans tie-in.
Voilà.
C'est quand même magnifique.
C'est quand même magnifique. Mais
sans tie-in, oui et non, puisqu'on a quand même le prologue qui est un one-shot.
Bah, c'est-à-dire que dedans, on a aussi Spider-Man, Wolverine, Ares, les Agents d'Atlas, les New et les Mighty Avengers, quoi.
On a vraiment pas mal de monde. D'ailleurs, ils disparaissent très très vite. Hein.
Oui.
Je crois qu'on les voit deux épisodes à tout péter, puis c'est tout.
Oui, voilà. Il y en a certains qui font vraiment de courtes apparitions. Bon, et à part Spider-Man dans le prologue, qu'on voit pas mal.
D'ailleurs, Assault on Olympus, sur la cover, on a Hercule versus Spider-Man.
D'accord. Sur la couverture française,
Oui, sur la cover américaine.
Oui. Sur la couverture française, c'est une espèce de double cover, en fait, devant recto verso, quoi. Mm-hmm. Avec un petit peu tous les personnages principaux qui participent à cet assaut du Nouvel Olympe en français. Et je vais te laisser commencer à résumer.
Ben oui, alors avant même de résumer, je vais déjà parler des problèmes de parution de Panini.
Ouais.
Donc, comme tu le disais, on n'a pas d'Hercule en français.
Ouais.
Si ce n'est ces quelques épisodes de Secret Invasion. Donc on se tape maintenant les épisodes 138 à 141, je crois que de mémoire ça devait être les épisodes 115 à 117 ou 117 à 120, quelque chose comme ça pour Secret Invasion, donc on a un gros trou. Et le mois prochain, dans un Monster spécial Dark Reign, nous avons les épisodes de 129 et 130, je crois. Mmh. Ce qui est totalement ridicule.
Bah, ce qui est pas pratique, effectivement,
surtout
pour s'y retrouver.
Une fois qu'on a lu la fin de ce numéro.
Oui, oui, voilà. En plus, effectivement.
Donc, c'est vraiment du n'importe quoi. À savoir que, en plus, c'est quand même super récent, puisque le dernier épisode est paru aux États-Unis, enfin en tout cas, est tagué dans l'ours avril 2010, c'est-à-dire qu'il est sorti en février.
Oui.
Donc c'est quand même super récent. Je sais pas, là une fois encore, pour moi, c'est un peu dommage d'avoir publié dans ce sens-là, peut-être qu'il aurait mieux valu inverser les deux parutions, quoi. Ou en tout cas, publier le Hercule le mois prochain.
Mais c'est toujours pareil, c'est comme avec The List et le Daredevil, par exemple, qu'on va chroniquer tout à l'heure. On a eu déjà d'importants éléments, on va dire, dans cet ordre, de ce qui se passait dans Daredevil, alors que, au fait, les événements de The List se situent après le 100% qu'on va chroniquer. Donc voilà, bah, c'est comme d'habitude, quoi. C'est un ordre de parution qui n'est pas logique et, enfin, je vois pas où est la difficulté, d'ailleurs, tellement de...
J'ai l'impression que c'est les vacances, là. J'ai pas dit, c'est les vacances.
Oui, enfin, c'est un peu les vacances toute l'année, par moment, hein. Enfin...
Ouais, mais alors là, plus que d'habitude.
Ouais. C'est vrai que c'était assez le bordel cet été, hein, les parutions. D'autant que, faut préciser qu'on a eu aussi toute la librairie à la fin du mois, là.
Oui.
Donc, c'était pas facile pour... Il avait vraiment fallu faire des choix, voilà. Parce qu'on pouvait pas tout lire, on pouvait pas tout acheter non plus, le budget n'étant pas extensible.
Même que déjà le peu qu'on avait à lire, j'ai pas réussi à tout lire. Hein.
Voilà, en plus. Mais il faut dire qu'il y avait du pas terrible hein, dans le lot.
On va revenir sur Hercule un petit peu, peut-être.
Peut-être, tiens, oui, ce serait pas une mauvaise idée.
Le souci d'avoir pas eu d'Hercule en France, c'est que honnêtement, quand on commence cette histoire, on est mais totalement largué. On ne pige rien. On se retrouve avec un Zeus qui est enfant. Ou alors, c'est réexpliqué de façon correcte. Quoique en même temps, je ne me rappelle plus si c'est dans l'histoire ou si c'est juste avec les résumés que c'était expliqué.
Mais au fait, dans la version Panini, puisque tu l'as lu en VO.
Comme toujours.
Voilà. Dans la version Panini, il y a toujours un petit édito où il résume en fait tous les événements récents survenus dans Hercule. Donc tout le fait que Zeus soit devenu un gosse, etc., la guerre contre Hera, enfin tout ça c'est résumé en quelques lignes au début.
Ouais, mais
sur une tranche de jambon. Donc évidemment, on continue la blague du Panini.
Oui, c'est la blague récurrente de ce numéro. D'ailleurs, je crois que ça va être le titre tranche de jambon. mais non, enfin, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire à cause de ça, parce que là, on a beaucoup de personnages. On sent qu'il s'est passé énormément de trucs qui ont tous rapport avec ce qu'on est en train de lire. Faut savoir aussi que c'est bon, c'est la fin de la série Incredible Hercules. La série s'arrête au numéro 141.
Oui, puisqu'elle avait remplacé au fait Incredible Hulk.
Oui, voilà, elle avait pris de la numérotation, la suite en fait. Hulk avait dégagé de sa série et Hercule avait récupéré la place.
Voilà, et c'était toujours le même scénariste qui avait repris le personnage d'Hercule au fait. À savoir Greg Pak.
Ouais, et puis après ça a été Fred Van Monty, et là ils terminent tous les deux.
Voilà, ils terminent en apothéose.
Ouais, mais, par contre, c'est vachement bien, enfin c'est vraiment super bon comme truc. Mais c'est vrai qu'on a un sentiment d'être totalement dépassé, d'avoir raté tellement de trucs qu'au début on est un peu refoulé. Et je pense qu'il faut donner la chance au truc, faut vraiment rentrer dedans et ça passe quand même relativement bien.
Ouais, non, franchement cette lecture est vachement sympathique. C'est fun, c'est on a vraiment un Spider-Man vraiment drôle.
Ouais. Bah c'est aussi que Fred Van Lanty l'écrit aussi de temps en temps, donc.
Ouais. Donc mais en tout cas mais justement je trouve qu'il le tient même mieux là que dans sa série principale. En tout cas,
je sais pas le dire.
Mais je sais pas, il est vachement plus drôle quoi. C'est ouais. Genre la scène où le tête-à-tête entre Peter Parker et Ebé.
Ouais, c'est vachement bien fait.
Ebé qui est l'ex d'Hercule au fait.
D'où même pas son ex en fait, ils sont encore mariés.
Oui, ils sont encore mariés, mais bon, c'est un peu particulier à l'Olympe, on se lasse un petit peu de ces femmes et Hercule est allé tremper le biscuit ailleurs quoi, entre-temps.
On a plein de fois.
Oui, plein de fois, ouais. Et donc voilà, donc là elle est dans le Fist Center, c'est là où travaille Tante May. Alors Fist, ça s'écrit F-E-A-S-T, hein, pas Fist comme un point.
Non, ne reviens pas sur cette blague, s'il te plaît.
Bref. Donc, c'est là qu'Hercule arrive.
Oh non, ça suffit.
Non, ça suffit, oui. Arrêtons les blagues, mais il arrive vraiment. Et Hercule n'est pas content puisqu'il trouve donc Peter Parker en train de draguer sa femme. Et
en train de l'embrasser même.
En train de l'embrasser, ouais. S'ensuit une altercation entre Hercule et Spider-Man qui est vraiment super fun, quoi. Ouais. Et c'est là où je trouve que Fred Van Lanty est vraiment marrant sur cette série, plus que sur Spider-Man.
Ah, puis tout le reste, hein, de toute façon, le numéro 138, c'est juste exposer le plan de comment ils vont attaquer le continuum, avec à chaque fois... Alors, je sais pas si t'es respecté en français, mais chaque fois qu'il y avait écrit continuum, t'avais un petit symbole de copyright...
Oui, oui, exactement, ouais.
C'est le petit détail qui tue à chaque fois.
Ouais. Non, c'est vraiment très très comique. Au fait, c'est avec Deadpool un petit peu la série fandard, quoi. On lit du Hercule, on est vraiment mort de rire les trois quarts du temps. Et puis bon, bah, l'histoire grosso modo, donc ils vont tous affronter Hera, quoi.
Voilà.
Hera qui est un petit peu ce qu'est Loki à Thor.
Oui, c'est ça. Bah, c'est sa belle-mère. Hein.
Oui, donc, forcément, hein. Allez affronter votre belle-mère avec. Vous avez bien besoin de Spider-Man, de Wolverine et compagnie si vous voulez affronter votre belle-mère. Tout le monde le sait.
C'est la femme de son père, mais ce n'est pas sa mère. Voilà.
Oui.
C'est pour ça qu'elle lui en veut d'ailleurs, puisqu'elle lui rappelle les infidélités que lui a faites Zeus.
Exactement. Ouais.
Bon. Enfin, bah... Voilà. On va pas trop en révéler parce que c'est vrai qu'il faut que ça se lise. Enfin, oui. ça se découvre plutôt, pas par soi-même, avec un final
qui... explosif.
Ouais. Qui vous laissera sur le cul, je pense.
Oui, voilà. Enfin, oui, voilà. D'accord. Donc, je ne ferai pas de blague. C'est promis. Je me réfrène.
Oh non, j'y pensais même pas en plus.
Non, mais de toute façon, c'est vraiment une lecture super fun. C'est vraiment un moment de pure détente. Et il est bien dommage, effectivement, qu'on n'ait pas eu plus souvent cette série en français, parce que.
Ah bah disons, quand on voit tout ce qui, enfin, quand on a cette sensation de voir tout ce qui s'est passé depuis le début et que tout aboutit à ça. On a vraiment envie de lire les numéros précédents pour voir le cheminement.
Oui.
Bah, franchement, vraiment une très très bonne surprise et un truc vraiment excellent.
Ouais, donc on n'est pas dans Comics Weekly, mais on dirait que c'est un bail pour ce Marvel Saga 7, quoi.
Ah ouais, c'est vraiment, vraiment très 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 bon.
Donc, alors j'ai plus le prix ici, il coûte quand même 5,60€, mais vous avez quand même 5 comics. 5 comics dedans. 5
épisodes dont le premier
qui est double,
qui est un double, voilà. Mmh. Voilà, ça c'est justifié prix, quoi. C'est le même prix qu'un Marvel Universe d'ailleurs, je crois.
Ouais, et les dessins sont sympas.
Il m'a fallu un petit peu de temps au début pour m'habituer au style, notamment d'Amadeus Cho. Je suis plus habitué de le voir dessiné dans les pages de Mighty Avengers. J'ai eu un petit peu de mal à le reconnaître au début.
Mmh. Non, mais enfin voilà.
Mais dans l'ensemble, les dessins sont sympas.
Ouais, elles sont bien adaptées au style.
Un petit côté cartoony qui
Ouais.
amplifie ce côté comique d'ailleurs.
Donc voilà, donc une bonne lecture et on continue avec un truc un peu moins bien.
Oui, on passe à DC avec le Batman Universe numéro 2. Les deux premiers épisodes, s'il n'y en a que trois dans ce numéro, mais ce sont tous des épisodes de 30 pages, au moins.
Ouais.
Donc les deux premiers, ce sont Battle for the Curl numéro 2 et 3, scénario de Tony Daniel, dessin de Tony Daniel et ancrage de... Non, pas Tony Daniel, Sandu Florea.
Oh, oh, j'y croyais pourtant, j'y croyais.
Voilà, donc on apprend ce que, je pense, beaucoup de gens avaient deviné à la fin du premier numéro, que le Batman sous armure, c'est Jason Todd.
Non, c'est Alfred.
Ça aurait pu être drôle, mais... C'était Jason Todd, malheureusement.
Non, non, c'est le commissaire Gordon. Non, bon, d'accord, d'accord, j'avoue, c'est Jason Todd. Bon, alors, on s'en doutait un peu, quand même.
On en rigole parce que c'est pour rien.
Oui, non, c'est... En fait, il se passe pas grand-chose.
Mais
il
non,
passe
il
même
se passe rien, quoi.
Il se passe rien.
Ça aurait pu être un one-shot, ce truc.
Mais ça aurait pu être bon, surtout, si ça avait été scénarisé par un vrai scénariste. Alors, encore une fois, je suis désolé, mais Tony Daniel, il fait des dessins super. J'aime beaucoup son style sur Batman. Mais point de vue scénario, pour le moment, enfin... Je crois qu'après ça s'améliore un peu quand même, j'espère. Mais Battle for the Call, là, c'était pas top top.
Il y a deux choses importantes à retenir de cette mini-série. On y reparlera vers la fin. On va parler grosso modo de l'histoire. Jason Todd élimine un à un tous ses pseudo concurrents. Il commence par dégager Damian.
Ouais, il dégage Damian vite fait, on va dire. C'est surtout en fait, il affronte. Enfin, c'est surtout la deuxième partie, c'est surtout face à face avec Tim Drake.
Avec Tim Drake, ouais.
Qui est bon, alors c'est pas si mal, mais je veux dire, c'est pas non plus transcendant.
Il y a une scène quand même que je trouve un petit peu abusée.
Ah, vas-y.
Donc ils se bastonnent tous les deux. Jason a le dessus sur Tim. Mm-hmm. Finalement, Tim se relève et le frappe à coups de baramine.
Ah oui.
Voilà, oui, la symbolique est vraiment trop grosse, je trouve.
Oui, ça fait un peu cliché. Puis surtout, Tim Drake n'a aucun rapport avec la baramine. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Voilà, c'est le fait de voir Jason Todd se faire encore frapper à coups de baramine pour nous rappeler Death in the Family. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était vraiment, mais...
Too much, quoi. Ouais, on l'a déjà vu tellement de fois. Ouais.
C'est vrai que... On aurait pu trouver autre chose, quoi, qu'une baramine. Alors, je comprends qu'il ait voulu faire un clin d'œil, mais je sais pas, ce clin d'œil-là m'ennuie, quoi.
Surtout que Morrison leur sortira après dans Batman et Robin, dans un numéro dont j'ai parlé dans Comics Weekly. Sauf qu'à l'époque, je n'avais pas précisé que c'était avec une baramine à nouveau, mais bon. Bref. Donc, oui, bah, c'est pas transcendant, et bien sûr, ça se termine sur la confrontation, dans la troisième partie, entre Nightwing, enfin, entre Dick Grayson en costume de Batman, et Jason Todd. Et bah.
Ah non, Dick Grayson n'a pas le costume de Batman. Il a uniquement le costume de Nightwing.
Ah, c'est vrai, oui. Il le met qu'à la fin.
Oui, il récupère... en fait, à un moment, il se fait aveugler par la cape, mais c'est la cape que portait Tim.
Oui, d'accord.
Parce que
oui,
Tim
avait
pris le costume, lui, de Batman.
Et effectivement, ouais, j'avais oublié. Bah, tu vois, ça m'a tellement échappé, tellement ça m'a passionné, cette histoire.
Non, mais bon. Puis bah, la fin est convenue, quoi. On s'en doute tous, hein. C'est Dick Grayson sous le costume. Alors, on spoil, parce qu'on peut pas faire autrement, vu qu'on va parler du Batman 687 juste après, et voilà.
Oui, mais enfin, de toute façon, même, je veux dire, même sans spoiler, c'est fait tellement des mois qu'on en parle et tellement des mois que c'est évident que voilà.
Voilà. La seule chose intéressante, c'est ça, avec le fait que Damian devient le nouveau Robin.
Oui.
Costume qui lui a été passé par Alfred, d'ailleurs, et non pas par Dick lui-même. Et la deuxième chose, c'est Black Mask, qui n'est pas le Black Mask d'avant, puisqu'il avait été tué par Catwoman. Et donc, on ne sait pas qui est sous le masque de ce Black Mask.
Ah oui, c'est vrai, oui, c'est un Black Mask différent, et on le découvrira dans une autre histoire de Tony Daniel sur Batman.
Voilà, c'est les seules choses pour moi à retenir de Battle for the Cowl qui aurait pu être un one-shot.
Tout à fait, ouais. Complètement. Bon, bah, alors, les dessins sont sympas, c'est vrai que... Enfin,
oui, j'aime bien. C'est très sympa, quoi, mais est-ce que les dessins justifient de l'achat? Bon, là, dans un magazine comme ça, peut-être, ouais.
Et ouais, et puis en plus le problème aussi de Battle for the Call, c'est qu'il y avait plein de teasers, et puis même sur les couvertures où tu vois plein de personnages, et au fait on en voit très peu.
Bah on voit vite fait le network au tout début de l'épisode 3.
Ouais,
on voit tous les personnages.
Mais
c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tie-in autour qui n'ont pas été publiés en français.
Ouais.
On avait 5 one-shot, on avait 2 à 3 mini-séries, donc voilà, tout ça, on les
Peut-être même
avait.
meilleur et plus intéressant à lire que cette mini.
Certains étaient très sympas, ouais.
Bon,
D'autres
mais
beaucoup moins.
et du coup, ça nous amène à un
Ah,
numéro de Batman.
ouais, voilà, Batman 687, scénario Judd Winnick, dessin Ed Benes, ancrage Rob Hunter, et c'est un épisode chiant comme la mort.
Voilà. Alors, honnêtement, c'est un épisode tellement chiant que je ne sais pas comment j'ai fait, je l'ai zappé à l'époque, c'est-à-dire que je pensais que Jude Winning commençait à écrire Batman avec Mark Bagley au dessin. Et j'étais pas du tout au courant qu'il avait fait un épisode juste avant avec Ed Benes, donc je l'ai lu pour la première fois bah là, en français. Et bah je confirme, oui, c'est tellement chiant que je me rappelle plus du tout ce qui se passe.
En fait, c'est un épisode qui est un épilogue à Battle for the Cowl, mais un épilogue où finalement on n'apprend rien, puisque Nightwing refuse de mettre le costume, sinon juste à la fin. Mais comme il l'avait déjà mis à la fin de Battle for the Cowl, en gros, c'est un épisode qui sert à rien. Voilà. La seule chose, là encore, on apprend une chose intéressante, c'est que il décide de ne pas utiliser Wayne Manor, mais va directement en ville récupérer un penthouse de Bruce Wayne et en faire sa nouvelle Batcave. Puisqu'il veut pas utiliser ce symbole-là, il veut que ce soit, il veut devenir Batman sans être Bruce Wayne.
Ouais.
Voilà. Voilà. Rien de plus à dire dessus, quoi. Franchement, voilà, on le voit légèrement en action sur la fin face au Scarecrow et encore, on a juste un début de confrontation, on n'a rien.
Oui, et en plus, je pense même qu'on va zapper la fin de la confrontation. Il
Oui.
faut l'imaginer, puisqu'après, on
C'est
va
juste,
démarrer totalement.
voilà, grosso modo, c'est pour nous dire Batman est de retour, quoi, dans la partie.
Voilà, Batman est de retour, et c'est Dick Grayson, ou Dick Grayson, comme tu dis.
Moi je dis Dick Grayson.
Donc, nous nous battrons jusqu'à la mort au Lille Comics Festival pour savoir qui a raison. Bien. Sur ce,
Et toi en costume de Zatanna et moi en costume de bah, Power Girl, tiens, puisque je n'ai pas peur d'exposer mes parties.
D'accord, très bien. Rendez-vous est pris,
Voilà.
donc je vous rappelle,
Donc,
c'est le 13 et 14 novembre.
je vous demande de m'excuser pour ces vannes. Il est très tard, il est plus de minuit.
Ouais.
J'ai eu
Oui.
une journée très longue de travail, je suis fatigué. Voilà, c'est dit. Et on n'a pas fini, on va continuer toujours chez DC. Ah oui, quand même, juste pour dire, passez-vous de cet achat-là, quoi. C'est
Oui,
vraiment pas intéressant.
le Batman intéressant, enfin, Steve dira pas forcément, mais
Si, le début est sympa.
voilà, donc ça commence vraiment dans 2 mois. Batman Universe 3, les choses sérieuses commencent, il y
Avec
aura enfin de
Batman,
bonnes
ouais.
histoires.
Avec Batman et Robin numéro 1, la série de Grant Morrison.
Et normalement du Batman aussi,
Et
je
aussi
crois, hein,
Batman,
je crois. Du Batman avec donc Jude Winnick qui cette fois-ci nous fera un truc meilleur. Enfin, de mémoire, en tout cas, c'est meilleur que ça. Hein. Voilà.
ouais, de toute façon, ça peut difficilement être pire.
Alors.
Voilà, comme ça, je l'ai dit.
Non.
Donc, comme je disais, on continue chez DC avec le DC Universe hors série numéro 18. Un numéro spécial consacré à Superman, avec les épisodes d'Action Comics numéro 866 à 870, et qui signe la fin du run de Geoff Johns sur Action Comics. Donc, comme je disais, c'est scénarisé par Geoff Johns. Au dessin, on retrouve Gary Frank, et à l'ancrage, John Siebel.
Bah déjà, voilà, si vous achetez pas le Batman Universe, achetez celui-là,
Ah
par contre.
oui. C'est une lecture obligatoire, là encore. C'est peut-être une des meilleures histoires de Superman que j'ai pu lire depuis de nombreuses années. À équivalence à peu près avec l'arc qu'il nous avait fait sur la Légion.
Oui, d'ailleurs, j'allais le dire que en français, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu du Geoff Johns et du Action Comics tout court, d'ailleurs en français, puisque l'épisode avec la Légion s'est terminé dans un mensuel de Superman Batman il y a plusieurs mois. Entre-temps, on avait eu des hors-séries avec la fin du run de Busiek sur Superman et le début, donc dans un livre librairie de Superman
De James
de Robinson.
Robinson,
Voilà, c'est
The
bien cela.
Coming of Atlas.
Voilà. Donc voilà, donc ça fait plaisir de revoir enfin Geoff Johns sur du Action Comics et du Action Comics en français.
Pour la dernière fois, en tout cas, sur Action
Pour la
Comics.
dernière fois, mais toute une saga complète, comme tu le disais, alors je crois que j'ai pas le prix sous les yeux, mais je crois que ça devait être 5,60 € un truc dans le genre. Ce qui est pas cher, puisque
Non, bah non.
le TPB, hein, le TPB en américain, déjà, ça vous fera le double, quasiment. Donc
Ben,
voilà,
c'est
donc.
pour un prix moins cher, alors qu'il y a plus d'épisodes que dans Coming of Atlas.
Voilà, aussi, oui. Donc le format n'est pas le même, certes, mais en tout cas le rapport qualité-prix est là et voilà, faut vraiment pas passer à côté. Pour une fois, c'est vraiment un bon cru. Donc l'histoire.
L'arc s'appelle Brainiac.
Donc voilà, on vous en dit pas plus.
Fin de la review, on passe à la suivante.
Non, mais on pourrait quasiment effectivement en dire très peu, parce qu'au fait, Brainiac est de retour.
Et c'est pas le Brainiac de papa, hein.
C'est pas le Brainiac, enfin c'est le vrai Brainiac au fait.
Voilà.
Parce que jusqu'alors, nous n'avons pas vu le vrai.
Et alors, même si ça peut paraître un peu absurde comme idée, c'est plutôt bien amené.
C'est très bien amené. On retrouve la fameuse cité Candor, la cité en bouteille. Voilà, il y a pas mal de choses qui se rapportent à la mythologie de Superman, qui une fois de plus avec Jeff Jones se retrouve un petit peu remise au goût du jour.
Et tout est bien lié, comme toujours.
Et tout est bien lié. On retrouve même le cast du Daily Planet avec Perry White, Jimmy Olsen, etc., Lois Lane, mais aussi
Grant qui est de retour, voilà. Qui recommence.
Voilà.
À essayer de séduire Clark.
Et c'est énorme. Il y a vraiment des scènes qui sont super drôles.
La scène sur la chirurgie est très très forte.
Et oui, enfin voilà, il y a vraiment des scènes où on se marre. Que dire de plus ? On peut pas vraiment en dire beaucoup, hein, parce que il y a beaucoup de surprises.
Ça risque d'être du gros spoil.
Ouais, il y a vraiment beaucoup de surprises. Disons que la fin annonce vraiment de grandes choses. Avec
c'est
un
aussi,
retour,
ouais.
J'ai envie de dire un retour énorme, quoi.
Ouais, et aussi une disparition.
Une disparition aussi colossale. Voilà, donc ouais. Vraiment, si avec ça vous avez pas envie de le lire.
Non, c'est vrai que c'est ce qui va lancer toute une saga qui va durer pendant plus d'un an dans les pages de Superman, mais je ne suis pas sûr qu'on les ait en français. Mais en tout cas, cette introduction vaut le coup d'être lue, quoi.
Ah on sait ce qu'on va avoir en fait.
Oui,
on va avoir un big book avec des épisodes d'Action Comics, je crois 2 ou 3. Des épisodes de Superman.
Tout le crossover en fait.
Ouais voilà.
Tout le crossover qui s'ensuit, mais je pense pas qu'on ait la partie suivante.
Ouais.
Le problème c'est que si on dit le nom, bon même si vous le connaissez déjà, vous l'avez.
Non on va pas le dire parce qu'il y a peut-être des lecteurs français qui sont pas au courant et qui lisent Superman occasionnellement et qui donc liraient ce Superman là. Pour l'occasion, et franchement, on peut ne que vous encourager à le prendre, hein, celui-là.
C'est la review, on en dit le moins possible, en fait. C'est terrible, c'est très très dur. Très très dur.
Mais en même temps, voilà. Il y a beaucoup d'action. Donc, 6 épisodes. 5 épisodes qui se lisent assez vite, quand même.
Ouais, relativement vite. Ouais.
Relativement, oui. Mais les dessins de Gary Frank sont vraiment géniaux. Le scénario de Jeff Jones est toujours au top. Donc vraiment, il termine sa prestation sur Superman de la plus belle des manières. Alors le regret, c'est que effectivement, ça annonce de grandes choses qui ne seront pas écrites sur Superman par Jeff Jones. Ce sera James Robinson qui va s'en charger par la suite. Mais bon, voilà, c'est quand même un final en apothéose.
Ne serait-ce que pour la modification du personnage de Brainiac, ça vaut vraiment vraiment le coup, parce que c'est vrai que Brainiac était devenu un ennemi un petit peu ridicule au fil des ans. Connaît Brainiac 5 qui est le Brainiac de la Légion qui lui est beaucoup plus intéressant que son ancêtre, et là on découvre enfin le vrai Brainiac et c'est vraiment autre chose que le Brainiac qu'on a connu.
Ce qui est assez marrant, c'est que tu remarqueras que Jeff Jones a, à travers ses arcs progressifs, réussi à chaque fois à modifier sans que ce soit gênant des pans de la mythologie de Superman.
Totalement, oui.
Là, c'est Brainiac et Candor. Avant, c'était la Légion. Encore avant, alors il y avait eu un arc sur Bizarro que malheureusement on n'a pas eu en français, mais où encore il modifiait quelques petites choses. Et puis voilà, il y a eu plein de choses. Il y a eu Secret Origins qu'on aura, je pense, forcément en français un jour.
Et qui est de la même équipe, hein, Jeff Jones, Gary Frank et John Sibal.
Oui, et qui est aussi bon.
Et dont on a parlé dans le dernier Comics Weekly.
Bon alors.
Accessoire. Sauf,
oui. Par contre, sauf que bon, la fin ne changera pas tout, puisque c'est les origines retravaillées, donc ça va pas non plus tout chambouler le statu quo, mais quand même, quoi, c'est vraiment pas mal. Et que dire, prenez-le, hein, franchement.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a aussi un guest en la personne de Supergirl, et qui ne fait pas que juste une petite apparition, elle est là.
Ah oui, c'est vrai qu'elle est très présente, elle est très présente dans cet arc.
D'ailleurs, justement, cet arc a aussi énormément de modifications pour elle.
Non mais de toute façon, du Supergirl, du Zatanna ou qui que ce soit de féminin dessiné par Gary Frank, c'est un must-buy. Déjà.
Oh la raison pourrie.
Ah non. Ah ouais. Attendez. regardez un dessin de Gary Frank, regardez un dessin de Nana dessiné par Gary Frank, c'est voilà, c'est une bonne raison déjà. Donc allez-y, franchement les yeux fermés même.
Ouais. Enfin, ça aurait pu être pire, hein, disons que ça aurait pu être mieux, pardon. Ça aurait pu être dessiné par Gary Francho. Voilà. Et donc c'est sur cette vanne très honteuse que je vais.
On va
peut-être lancer la review suivante, voilà. On va passer maintenant à la librairie.
Oui.
Ce mois-ci.
Oui.
Donc vous aurez compris qu'on ne va pas parler de Marvel Universe. Puisque voilà, il n'était pas très bon, donc pas la peine d'en parler.
Bah, comparé à d'habitude, ouais, voilà.
Et c'était. Puis, c'est pas essentiel à War of Kings, donc.
Non. Voilà. Enfin, juste pour préciser que c'était une mini, donc centrée sur le personnage de
Darkhawk.
De Darkhawk.
Enfin, et deux mini en fait, puisqu'il y avait Darkhawk 1 et 2 et Ascension 1 à 4. Mais de toute façon, toutes les deux sont centrées sur Darkhawk.
Et donc voilà, dispensable, on va dire.
Ouais.
Et en plus, déjà disponible pour ceux qui avaient été au Japan Expo.
Voilà, Comic-Con.
Oui, au Comic-Con du Japan Expo. Voilà. Donc peut-être l'avez-vous lu déjà il y a longtemps, donc vous auriez dit... Voilà, vous auriez dit, mais ils sont en retard et tout. Donc voilà, donc on l'a pas fait. Voilà, c'est de votre faute. On passe à la suite.
Oui, donc on attaque la partie librairie avec le Spider-Woman. Voilà, la série de Brian Bendis.
La fameuse.
Et
la fameuse.
Alex Maleev.
Oui, oui, parce qu'on en a tellement parlé. Enfin, on en a entendu parler. Oui. Et finalement, eh ben, elle s'est arrêtée au bout de cet épisode. Voilà. Du coup, Panini, qui devait publier les 5 premiers, nous publie les 7. Dans un 100%.
En prenant quelques mois de retard, je crois que c'était prévu pour le mois d'avril au départ. Mais bon, là, c'est un retard totalement excusable, étant donné que bah ils nous ont foutu toute la série d'un coup.
Oui, c'est légitime, là, totalement légitime. Donc, cet épisode avec Brian Michael Bendis au scénario, je sais pas si tu as dit.
Oui, Brian Michael Bendis et Alex Maleev.
Et Alex Maleev, qui signe des pages très belles,
comme d'habitude.
Superbes. Sa Spider-Woman est... Voilà.
Le blanc, j'ai pas compris ce qui s'est passé.
D'accord. J'allais dire un mot qui, de toute façon, aurait été censuré, donc, voilà. Et bonne, on va dire. Et jolie, et fort sympathique. Voilà.
Oh là là, mais dis donc, t'es Horny Bunny ce soir.
Oui, Horny Bunny, ce soir, il est plus de minuit, donc ça y est, c'est l'heure du Horny Bunny. C'est la première fois qu'il est
venu. S'il fait un podcast après minuit, il se transforme.
Ouais, j'ai des poils partout et des grandes oreilles pointues qui se dressent sur ma tête.
C'est la fin de l'été, ça. On ne contrôle plus rien.
Oui, c'est la période de reproduction pour les lapins, c'est bien connu. Non, j'en sais rien, hein, je dis n'importe quoi. Donc, alors, on continue avec le scénario peut-être. Bah,
je me suis suicidé à coup de The Hood.
Oui, ouais, bof. Tu l'as laissé pour moi, le The Hood. Donc alors, le scénario, Steve.
Donc Jessica Drew, hein, et pas Jessica Jones.
Oui.
Fusion facilement faisable puisque j'arrête pas de la faire. Donc,
Et tout le monde, enfin souvent. Souvent les gens se confondent les deux, d'autant que c'est deux personnages fétiches de Brian Michael Bendis, donc ça devient un petit peu compliqué. D'autant qu'au début il devait écrire Jessica Drew, qu'on lui a refusé, que du coup il a créé Jessica Jones. Voilà.
Ben voilà. Donc Jessica Drew essaye de se remettre du traumatisme de l'enlèvement par les Skrulls qu'elle avait vécu, et notamment le fait qu'en plus d'avoir été remplacée, elle était remplacée par la reine de l'invasion. Donc elle a vraiment la tête de la personne à abattre.
Eh ben Vlatipak, c'est pas bien comme histoire. Voilà, c'est ballot.
Alors, ça part sur un truc qui pourrait être sympathique, puisqu'elle est recrutée dans les premières pages par l'agent Brand du Sword.
Oui, du Sword. Oui, c'est vrai, du Sword.
Oui,
comme dans Soul Calibur.
On ne prononce pas le W en fait.
Oui, The Sword.
Donc, l'agent Brand la recrute pour faire le ménage sur les Skrulls qui sont restés sur Terre et qui se cachent, notamment, puis aussi, après, faire peut-être du ménage avec d'autres extraterrestres, etc. Mais en tout cas, là, sa mission principale, c'est de tuer les Skrulls restants. Enfin, en tout cas, d'en disposer de la façon dont elle veut.
Effectivement. Et puis, il y a un démarrage très à la Bendis, c'est-à-dire un petit peu ambiance polar, du plus bel effet. Donc c'est annonciateur de grandes choses.
Et du polar, c'est pas du tout ça.
Oui, mais oui, effectivement.
Ce n'est que de la baston.
Exactement, ouais. Donc ça commence bien les 10 premières pages.
Moi, je dirais que tout le premier épisode n'est pas mauvais, quoi.
Le oui, bah sauf la fin quoi. Enfin, il y a que cette espèce de, on va le dire, hein, c'est
Oui,
pas
oui.
Spider-Man qu'on voit à la fin, c'est un Skrull. Bon, c'est pas un gros
Enfin, de toute
spoiler.
façon, c'est un épisode sur sept, quoi.
Oui, voilà. Et puis après, voilà, ça part vraiment en baston général.
Bah, déjà,
Je
ça se
trouve.
passe à Madripoor, donc
Alors,
ville chère à Jessica Drew.
je trouve aussi que les dessins, bon, ils sont grandioses du début à la fin, mais petit à petit, tu vois, on sent qu'il est moins dedans, peut-être, Alex Malib. Je sais pas si
Et
t'as eu cette impression.
c'est... Ah bah oui, non mais il est moins dedans, c'est clair et net, puisque c'est en partie à cause de ça que la série s'est arrêtée.
Voilà. Faudra aussi préciser que c'était en motion picture et que c'est peut-être aussi pour ça que la
Voilà,
série
oui,
s'est
puisque en
arrêtée.
fait cette série est sortie d'abord en motion comics sur iTunes, et une semaine ou deux semaines après, elle sortait en comics réel.
Voilà. C'était une opération Marvel type bah, type ce qu'on avait eu en 2001 avec l'annual X-Men, tu sais, où c'était les pages à l'horizontale. Ça s'appelait Widescreen Comics, non? Je sais plus, tu me l'avais dit hier.
Marvel Scope.
Marvel Scope, voilà. Donc c'est un petit peu une idée, une fausse bonne idée, quoi, en fait.
Ouais. Et bah donc là, le souci en fait, c'est que Malib a dû dessiner et redessiner et redessiner et redessiner encore les mêmes et mêmes planches pour que ça soit bien dans le motion comics. Ensuite, il a fallu qu'il redessine d'autres planches parce que ce sont pas forcément les mêmes plans à l'exacte pose dans les comics et dans le motion comics.
Ce qu'on pourrait faire vraiment, si vous voyez pas ce que c'est le motion comics, on vous mettra le lien vers le trailer Spider-Woman en motion comics, comme ça vous pourrez avoir une idée de ce que c'est exactement. Parce que là, comme ça peut être un petit peu nébuleux, mais voilà. C'est, j'en ai regardé une partie d'ailleurs de ce premier épisode avec toi, enfin avec toi.
Oui, enfin, par Internet, quand même.
Oui.
Oui, enfin, on l'a vu, quoi.
Voilà. On a vu le premier épisode. C'est vrai que bah c'est chiant quoi. C'est beau,
Oui,
mais
c'est
c'est chiant.
animé, on entend parler, il y a des gens qui racontent le texte, qui jouent d'ailleurs très très bien, hein. Par contre, les acteurs sont pas mauvais, mais c'est chiant, quoi.
Oui, c'est
Moi, je
chiant.
suis pas du tout séduit par ce côté motion comics, quoi.
Non, mais c'est une fausse bonne idée, quoi. C'est sur le papier, justement, ça peut paraître bien. Et d'ailleurs, ils auraient dû en rester au papier et faire juste une série Spider-Woman, 100% papier, 100% comics, tout simplement. Et peut-être que la série aurait duré plus longtemps. Ou peut-être pas, parce que voilà,
Et
encore une
donc,
fois, le
bah,
scénario.
comme je disais, le problème, c'est qu'en fait, Malib, lui, s'est lassé de devoir redessiner autant de fois le personnage. Donc, il en a eu marre, il a fait un burn-out et il a voulu arrêter la série. Et Bendis n'a pas voulu continuer la série sans Malib, puisque c'était leur projet à eux deux dès le départ, donc ils ont décidé de stopper. De toute façon, l'histoire était pas bonne. Enfin, en tout cas, selon moi, l'histoire était pas bonne.
Non,
Comme je
mais c'est, il
disais,
est, oui. Non, mais je te rejoins.
Jessica Drew, donc, se rend à Madripoor, c'est là qu'elle commence son enquête sur les Skrulls, et elle est rejointe par Viper, qui a une histoire avec elle.
Oui, c'est vrai qu'il y a Viper.
Elle veut la reprendre dans l'Hydra, Jessica Drew ne veut pas, et voilà.
Non, mais
Il n'y a
grosso modo, c'est ça. Puis il y a
pas grand-chose à
une
en
couche de
dire.
Thunderbolts, on peut le dire aussi.
Oui, ça c'est, ouais, à la rigueur, ça c'était pas trop mal.
Une touche de Thunderbolts. Mais grosso modo, bah voilà, peut-être pas beaucoup de scénarios, parce que avant tout réservé à, enfin, planifié pour être quelque chose en motion comics, donc plus de l'action qu'un réel scénario avec de réels retournements de situation et beaucoup de dialogue, puisque imaginons qu'un motion comics comme ça avec énormément de dialogue, bah ce sera encore plus chiant quoi. Donc il fallait qu'il y ait pas mal d'action, et du coup bah peut-être que ça s'est fait au détriment du scénario.
Moi, le problème, c'est que cette série m'a laissé totalement indifférent.
Ah
Je peux
oui,
même
mais moi
pas dire
aussi.
que j'aime ou que
Moi
j'aime
aussi.
pas, je m'en fous.
Oui, moi aussi. Non mais le problème c'est vraiment, je pense que ça vient vraiment du motion comics. Ils se sont trop axés là-dessus. Et du coup, bah du coup, il n'y a pas de scénario, quoi, quasiment.
De toute façon, malgré ce que Bendis dit et qu'il s'est arrêté parce que Malib en avait marre, je pense que ça, c'est la raison officielle. Parce que la raison officieuse, ce sont les chiffres des ventes, j'ai été les voir.
D'accord,
Alors, le
vas-y.
premier numéro a démarré à 47 000. Ce qui
Ouais.
est
Ce qui est pas extraordinaire.
pas extraordinaire, mais pour un personnage assez peu connu,
Mais pour du
voilà.
Bendis et du Malive,
Oui, mais
c'est pas
ça
extraordinaire.
reste quand même un personnage assez peu connu, donc bon, voilà, 47 000, voilà.
Ah
On va
bah
dire que
attention,
c'est...
faudrait comparer avec son premier numéro de Scarlet, par exemple.
Ah, je sais pas, j'ai pas été voir les chiffres. J'ai
Parce
pas
que ça aurait
pensé.
été intéressant qu'un personnage totalement nouveau par Bendis, un nouveau créateur owned, s'il a obtenu des ventes plus importantes, déjà ce serait alarmant, quoi.
Ensuite, le numéro 3, j'en ai pris que 3, hein. J'ai
Ouais.
tapé au hasard. Le numéro 3 était déjà à 32 000.
Ah, donc une sacrée baisse.
Sacrée baisse. Hein. Et la série a fini au numéro 7 à 25 000.
Ouais, en effet. Non, mais je
donc,
pense aussi que
un
ça.
C'est-à-dire un titre à éliminer pour Marvel parce que ça rend, ça n'apporte aucun argent.
Il vaut mieux le lire en tant que TPB. Ouais. Donc, de toute façon, en français, c'est sorti en TPB, hein, du coup, en 100%. Et il faut vraiment le prendre, pour ceux qui seraient intéressés malgré tout, comme plutôt un graphic novel, quoi, pour les dessins de Maliv.
Ouais, presque, ouais. Mais c'est vrai que, j'ai du mal à conseiller cette lecture, j'arrive déjà même pas à savoir ce que j'en ai pensé, alors.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des plans superbes, hein, quand elle est au-dessus de la ville, ouais. C'est vraiment extraordinaire, quand même. Mais bon. Le problème, c'est qu'il y a un manque d'histoire et un manque de fond.
Ouais, et puis j'ai l'impression qu'on aboutit à rien aussi, au final.
Ah, totalement, oui. C'est-à-dire que...
c'est totalement dispensable.
On pourra la revoir sans qu'elle fasse référence à ça, et ce sera pas de problématique, quoi.
Bah, ça explique un peu, légèrement, hein, je dis bien légèrement, son retour dans les New Avengers. Et encore. Parce que même la fin est pas très claire.
Ouais.
Donc,
voilà. Donc, une déception de plus ce mois-ci, malgré tout.
Et on n'a pas fini, hein, les déceptions.
On n'a pas fini les déceptions, non. On va continuer peut-être avec...
Avec Dark Reign, The Hood. Donc, ils ont traduit en The Hood numéro 2, je crois, en France.
C'est paru dans un 100%.
Voilà, puisqu'il y avait déjà eu un premier 100% consacré à la première mini-série sur The Hood. Du coup, ils ont récupéré la collection qui existait déjà. Et ils ont fait un The Hood numéro 2, en français, en tout cas.
Donc, en fait, c'est... Encore une mini-série Dark Reign consacrée au personnage de The Hood. Enfin, encore une mini-série Dark Reign, je veux dire, une de plus, puisqu'on a eu d'autres mini-séries Dark Reign.
On en a eu plein, et on en aura encore le mois prochain.
Voilà, dans des big books. Et donc là, ils l'ont sorti en 100%, celle consacrée à The Hood.
On a au scénario Jeff Parker.
Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a que 5 numéros au final.
Oui, voilà, il n'a pas dépassé son quota des 6.
Non, c'est encore une fois, encore un échec, c'est terrible.
Le pauvre. Et Kyle Hutz au dessin et à l'ancrage. Quel os qu'on ait pu voir dans Max, Simon Garth, je crois que c'était lui qui dessinait.
Oui, tout à fait, ouais, le truc avec les zombies, les loups-garous et tout là.
Lui d'ailleurs au scénario et au dessin.
C'est fort possible, mais je l'ai préféré sur les zombies que sur Zeus.
Voilà, donc moi tout de suite, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de finir tout. Celui-ci, j'ai pas eu le temps de finir. Je me suis tellement fait chier au bout de 2 numéros et comme j'étais très 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 en retard. Sur l'enregistrement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on enregistre aussi tard cette fois-ci. J'ai préféré totalement zapper pour éviter de perdre trop de temps. Parce que c'était chiant. Je l'ai dit deux fois, mais moi je vais le dire une troisième fois, c'était vraiment chiant.
Ouais, mais je vais le dire une quatrième fois, c'était chiant. Pour l'avoir lu entièrement, c'était chiant. Cinquième fois. Comme les cinq numéros de Jeff Parker. Mais alors le scénario il est simple, donc The Hood on le connaît, hein, c'est un... D'ailleurs il l'appelle aussi The Hood en français, je sais même plus. Oui, je crois.
Oui, non, je crois pas qu'il l'appelle la capuche.
Oui, ça m'étonnerait. Le chaperon. Le petit chaperon. Donc non, ni le chaperon rouge d'ailleurs, c'est The Hood. Bref. Donc on le retrouve avec tout son gang, hein, puisque depuis la fin de Civil War, il a un petit peu pris la place de Caïd, de la ville. Pendant que les Wilson Fisk et compagnie étaient en vacances. Et surtout, il a le pouvoir en lui de Dormammu.
Oui, ça. Hein,
c'est surtout ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a cette place importante. Et dans des épisodes récents, je crois, de New Avengers, il était fait référence à sa famille.
Oui, on le savait déjà sur la première mini-série, je crois. Je l'ai pas lu, celle-ci.
Ah, moi non plus. Donc, d'accord, peut-être. Toujours est-il que, pour ceux qui, comme nous, auraient lu les épisodes des New Avengers et peut-être la mini-série avant, rappelez-vous, donc, The Hood a une famille, et de plus en plus, on s'en rendait compte que il était, inquiet, des fois que sa famille se fasse, attaquer le jour où ses ennemis découvriraient au fait qu'il a une famille, enfin en l'occurrence une femme et une fille. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe dans cette mini, c'est un ancien flic qui est mort, tué par The Hood il y a plusieurs années, et donc sa femme, maintenant baptisée The White Fang, qui est devenue une super vilaine, on va dire.
Oui. Une super vilaine, ouais, si, remarque. Puisqu'elle veut le tuer.
Ouais, une super vengeresse, enfin, elle
sait
pas. Elle
veut le tuer, donc oui, forcément, c'est une vilaine.
Voilà. Vilaine. Donc, Donc voilà, donc c'est ce White Fang qui part à la, comment dire, à la, oula,
le bug,
oulala,
à la recherche.
Oui, bah à la recherche de The Hood pour l'exécuter tout simplement. Et bah pendant les 5 numéros, c'est ça quoi, en gros, c'est cette espèce de vendetta contre The Hood. C'est pas super passionnant. Les dessins n'aident pas, franchement. Ils sont pas très inspirés. C'est pas mal de bastons et de dialogues insipides.
C'est long à lire. Oh là là.
C'est long. Oui, c'est long. Il se passe pas grand chose. Jeff Parker n'est décidément pas inspiré par ce personnage. Enfin, semble-t-il. En tout cas, il est bien meilleur sur, je pense, Sergeant of Atlas.
Ouais.
Non, je sais pas. T'as pas l'air emballé, mais.
Moi, j'en ai pas lu beaucoup, donc je peux pas juger entièrement ce qu'il a fait. Donc,
Bon. Mais bon, alors il y a quelques passages sympathiques, comme par exemple le fait que sa famille se rend compte que bah il est vraiment perturbé. Dormammu prend possession de sa fille, du corps de sa fille, pour le pousser au fait à ne pas quitter son rôle de The Hood, tout simplement. Bah. Je vais pas révéler comment ça se passe, quoi, comment ça se termine pour lui, s'il arrive finalement à se débarrasser de son ennemi, du White Fang, et s'il arrive à sauver sa famille, parce que sinon il y aura vraiment plus aucun intérêt à cette mini-série.
Est-ce qu'il en avait? Oh, qu'est-ce que j'ai dit?
Non, enfin voilà, donc vraiment alors super dispensable, même totalement dispensable d'ailleurs. Un 100%, bah je sais pas, ils auraient vraiment dû le sortir en kiosque, parce que. Voilà, qui va mettre 12-13€ là-dedans, franchement, je ne vous le conseille pas, quoi. C'est chiant.
Bah c'est simple, moi sur les deux épisodes que j'ai lus, je n'ai retenu qu'un seul truc. Vas-y, c'est oui. Une blague qui tient en une bulle. Et encore, c'est une blague pour métalleux.
D'accord.
C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai retenu.
C'est pour
au
ça
moment
que je l'ai
où
pas
ils
plus,
attaquent où ils attaquent le camion pour voler les richesses du sultan, donc tout le premier le tout début du premier épisode. Quand Madame Masque voit les infos de quel camion il faut attaquer à Mr. King, il y a la sonnerie du portable de Mr. King, et on voit la bulle de la chanson qui est jouée, et c'est Breaking the Law de Judas Priest.
Ah, d'accord.
Donc, qui est assez drôle en plus, parce que Breaking the Law, voilà.
Oui, oui, pour eux, c'est pas plus mal.
Voilà, et donc, c'était juste un vieux morceau culte de Judas Priest, donc c'est pour ça que ça m'a fait rire. C'est la seule chose que j'ai retenue des deux épisodes, donc c'est vraiment pas grand-chose.
Bon alors tu parlais de Madame Masque, c'est vrai qu'elle est là aussi, comme tout d'ailleurs de le gang de The Hood, donc on retrouve comment
il
s'appelle.
Il y a
The Blob à un moment qui mange une pizza, ça m'a fait rire. Non, c'est pas The Blob d'ailleurs, c'est un je sais plus comment il s'appelle, un espèce de gros mafieux au fait qui ressemble à The Blob. Il y a le oui, voilà comme tu dis. Bon, il y a le Choker, il y a Mandrill, il y a les frères, je ne sais plus.
Je sais plus comment il y a beaucoup de monde.
Il y a beaucoup de monde dans son gang, mais je sais pas, quoi. Ils sont vraiment pas plus exploités que ça, et c'est vraiment pas passionnant, surtout cette intrigue de vengeance,
non,
en fait.
Non, du tout. Du tout. Moi, ça m'a vraiment, mais laissé froid, mais alors.
Oui, puis en plus,
encore pire que Spider-Woman.
Non, mais mettre le tag, moi aussi, complètement. Et puis là, même les dessins ne sauvent rien, quoi. Mais puis le tag Dark Reign, alors là, franchement, faudra qu'on m'explique même l'intérêt, quoi.
Bah, si, peut-être la fin.
Même pas, parce que de toute façon, ça aurait concerné The Hood ou pas, que ce soit le Dark Reign. Enfin, tu vois, on aurait pu raconter cette histoire avec ou sans le Dark Reign, quoi.
Et je pense que ça peut avoir des conséquences vis-à-vis du Dark Reign, mais à voir laquelle.
Je sais pas, honnêtement, mais ça ne m'a pas donné plus envie de lire plus à propos de ce personnage-là, et je vous déconseille de dépenser de l'argent pour cette lecture, qui n'en vaut vraiment pas le détour, quoi.
Bien. Bon.
Bah, on peut peut-être préciser, on peut peut-être en profiter pour préciser que donc on a dû faire des choix, hein, question de temps, etc. et de budget. On n'a pas fait The Boys cette fois-ci, mais The Boys est sorti. Mm-hmm. Donc, à mon avis, c'est toujours bon.
Oui, mais on n'a pas eu le temps de le lire. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas eu le temps.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que n'oubliez pas, quoi, The Boys, on vous le conseille toujours. Et puis, ça c'est moi. Hein, je sais pas si t'aimes, mais il y a Kevin le Magnifique.
Oui.
En tout cas, le premier qu'on avait eu il y a quelques mois était très bon, donc je pense que c'est du tout bon aussi.
Toujours par Garth Ennis et
oui,
Carlos
de toute façon.
Esquiza.
Voilà. Voilà. Ah, une double dose de Garth Ennis, donc allez-y. Ce sera mieux que The Wood à mon avis.
Oui, si on avait su.
Voilà, si on avait su, bah, on serait pas vu.
Voilà, non, mais avec un temps limité, c'est vrai qu'on est obligé de sélectionner les parutions un maximum. On va passer à la dernière review de cette quinzaine, et c'est là, franchement mieux, le Daredevil tome 20. Dans ce numéro, les épisodes de 116 à 119 de Daredevil volume 2 et retour à la numérotation normale avec le Daredevil numéro 500. Le scénario est d'Ed Brubaker qui signe la fin de son run sur Daredevil avec ses épisodes. Michael Lark et Stefano Godiano sont au dessin. Et Lark s'appelle Le Retour du Roi.
Oui. Return of the King. Et si on rajoute pin, qui veut dire
épingle.
Épingle, évidemment.
Il est très tard.
Il est très tard. Eh bien, ça fait Return of the Kingpin. Donc le caïd est de retour. On l'aura deviné d'ailleurs de toute façon, non pas à la couverture française, mais aux couvertures VO, hein, qui nous annonçait le retour du roi avec la tête du Kingpin. Alors, là encore, une fois, il va s'agir de modérer les spoilers.
Ouais, on va quand même parler de l'histoire, mais on a un premier épisode qui est centré uniquement sur le Kingpin.
Oui, sur pourquoi il revient en fait.
Voilà, qui nous montre ce qu'il fait pendant qu'il est en Espagne. Et l'épisode est super bon.
Oui, non, l'épisode est très très bon et voilà, encore une fois là, on va même pas dire pourquoi il revient quoi, ce serait dommage.
Oui. De toute façon, on n'a pas besoin de en parler pour la suite.
Oui. Donc de toute façon, il revient à New York suite à cet épisode qui est gigantissime. Et
vraiment vraiment très très bon épisode, plein d'émotions. Bien amené,
bien écrit, super, bonne atmosphère, superbe dessin comme d'habitude. Donc voilà, du très bon.
Et puis voilà, je te laisse continuer.
On repart donc sur Hell's Kitchen. On retrouve Daredevil là où on l'avait laissé, c'est-à-dire qu'il vient de remporter la victoire face à Lady Bullseye. Et rappelle-toi, la main lui avait fait une proposition.
Oui. Et pendant ce temps-là aussi, les beaux-parents, enfin ses beaux-parents, les parents de Mila veulent récupérer la garde de leur fille, puisqu'ils considèrent que Matt Murdock déjà l'a trompé, ce qui est vrai, puisqu'il y a les photos, et puis qu'il est pas, qu'il lui fait pas du bien, au contraire, qu'il lui fait plus de mal qu'il lui fait du bien.
Voilà. Donc c'est la merde, aussi bien du côté du costume que du côté de sa vie civile. Ça va plutôt mal, quoi, pour Matt Murdock en ce moment.
Et ça ne fait qu'empirer.
Et ça ne fait qu'empirer comme d'habitude, c'est ce qu'on aime avec Daredevil d'ailleurs, c'est que c'est une éternelle descente au fond du trou, dans un puits sans fond. Donc le caïd est de retour en ville, ce qui n'arrange rien. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Eh ben, qu'il décide de porter le combat contre la main, puisque la main est de retour en ville. Et le Kingpin décide de faire le ménage aussi et passe un pacte avec Daredevil pour se débarrasser de la main.
Voilà, exactement.
Mais c'est le Kingpin n'a-t-il pas une autre motivation en tête ?
Voilà.
Comme toujours, avec le Kingpin, on sait jamais.
Exactement. Et à partir de ce pitch-là, les choses vont s'enchaîner d'une manière totalement, on peut pas deviner ce qui va se passer quoi à chaque fois.
Non, c'est qu'une descente parce que cette alliance que Daredevil va faire va lui provoquer beaucoup de dégâts vis-à-vis des gens qu'il connaît lui aussi.
Oui, ça va être vraiment une descente aux enfers une descente incontrôlée, quoi.
D'un côté, il est obligé de se méfier parce qu'il sent que le Kingpin, de toute façon, il se méfie toujours du Kingpin. Mm-hmm. Et de l'autre côté, dans sa vie personnelle, c'est de pire en pire.
Voilà.
C'est totalement la destruction de Daredevil, en fait, dans
cette épisode. Et de Matt Murdock aussi. Ouais. Ouais.
Et j'ai l'impression, en fait, que Brubaker a tout cassé avant de partir, en disant,
C'est même plus la destruction de Matt Murdock que de Daredevil. C'est-à-dire qu'il n'a plus que le costume dans lequel aller se réfugier, quoi.
Et c'est vraiment ça, quoi. Moi, j'ai vraiment l'impression que, Brubaker, en se barrant, dit bon bah bonne chance au prochain.
Et pourtant le prochain, je trouve, a fait aussi des choses pas mal.
Andy Diggle, puisque c'est lui qui prend la suite, s'en sort très très bien.
Oui, s'en sort très très bien, même si le titre a subi une baisse quand même en termes de vente. Mais bon, il y a Shadowland. Enfin, on vous en dit pas plus sur ce que c'est pour ceux qui ne savent pas en VF, mais voilà. En tout cas, c'est du très bon. Daredevil,
c'est un must-buy comme toujours, quoi.
Ouais.
Et là, c'est vrai que en plus cet épisode-là va profondément modifier la série.
le statu quo, oui. On retrouve vraiment tous les... Alors, on retrouve aussi pas mal de personnages, faut préciser. Hein.
Oui.
Donc, il y a la main qui est présente, Lady Bullseye encore une fois, le Kaïd qui est revenu, Foggy évidemment qui est toujours là, Dakota North, hein, la nouvelle compagne, on va dire, de Matt Murdock, Mila, hein, qui fait des apparitions. Qui d'autre encore? Alors, le fameux Master Iso qui est apparu tout récemment aussi.
Oui.
Dont on apprend d'ailleurs beaucoup de choses sur lui.
Ouais, on apprend un petit peu une partie de ses origines.
Ouais. Et d'ailleurs, peut-on lui faire confiance aussi? C'est une question qui me taraude aussi.
Un petit peu. Ouais.
Voilà. Et
on a White Tiger et Black Tarantula aussi.
Et aussi, ouais, ouais, tout à fait, ouais, qui sont toujours là.
Possédés par la main, comme on avait vu à la fin du dernier épisode.
Tout à fait, ouais.
Parce qu'ils ont été tués et ressuscités par la main.
Ouais. Alors autant le dernier, tu vois, ça m'avait laissé un petit goût de pas de laisser aller, mais une petite baisse de tension, tu vois. Il y avait la révélation finale qui nous avait bien plu, mais durant tout l'épisode, il manquait un petit truc. Autant là, alors là, avec le retour du Kaïd, c'est l'explosion.
Ah, mais ces épisodes sont vraiment excellents, se lisent vraiment.
Oui, c'est ça va à 100 à l'heure.
Disons que voilà quoi. Quand on a commencé, on a du mal à reposer le bouquin.
Bon, sauf si on a une crampe au poignet, évidemment.
Bien sûr, mais. C'est vraiment pour me faire chier, ça.
Et si le bouquin glisse, hein, puisque les couvertures des 100% avec le truc un peu glacé, ça peut tomber des doigts. Et puis aussi, si.
Si y a le téléphone qui sonne, oui, bah, ouais, on connaît les problèmes.
Ouais.
Mais dans un contexte optimal, on ne repose pas le bouquin.
Oui, c'est vrai que voilà, c'est très addictif. Ça va à 100 à l'heure, c'est vraiment du Brubaker, du très bon Brubaker, quoi. Le Brubaker des premiers arcs, au fait, hein, que j'avais vraiment adoré. Voire même, c'est quasiment, en fait, ce qu'il a fait de mieux, je dirais, sur Daredevil, finalement, ce final.
J'ai pas encore lu tout ce qu'il a écrit sur Daredevil, donc je pourrais pas me prononcer encore, mais c'est vrai que de tout ce que j'ai lu de ce qu'il a écrit, c'est le meilleur arc. Oui.
Mmh. C'est quasiment ce qu'il a fait de mieux. Peut-être aussi, bah, au fait, un peu comme Bendis, hein, qui a vraiment quitté la série sur un énorme coup de théâtre. Bah là, pareil, quoi. Énorme coup de théâtre à la fin. Plusieurs, d'ailleurs, coups de théâtre, peut-on dire, multiples. Voilà. Enfin, c'est vraiment du très très bon. Donc, ne prenez pas The Hood, prenez plutôt le Daredevil.
Ouais, à choisir, oui.
Et puis même si vous avez jamais lu Daredevil encore. Vous pouvez quasiment vous mettre à Daredevil avec celui-là aussi, quoi.
Bon, ça va être chaud, mais c'est faisable.
Bah, c'est faisable quand même. C'est faisable. C'est-à-dire, c'est tellement bien écrit, la psychologie des personnages est tellement bien amenée. Enfin, voilà. On rentre vraiment dedans. C'est vraiment une très bonne lecture.
Tu me disais aussi qu'il y avait un petit épisode par Anno Santi qui était publié dans le numéro 500 que je n'ai pas lu.
Oui, alors il est publié aussi dans la version française, un petit épisode d'Anno Santi et de David Aja au dessin. Alors, c'est vraiment anecdotique au fait. Daredevil affronte Bullseye, il est mis mal en point et il fait la rencontre de deux individus qui vont un petit peu lui sauver la vie et qui vont au fait un petit peu pas modifier son existence, mais voilà, quoi. Ça va être une rencontre assez particulière avec deux individus. Voilà.
À savoir que ceci est placé dans le passé, hein. C'est pas du tout.
Oui, tout à fait, ouais, bien sûr, ouais. De toute façon, on le voit à la fin de l'épisode, enfin, à la fin de l'arc, c'est évidemment un truc situé dans le passé.
Moi, je vois rien de plus à rajouter. Sinon, achetez-le.
Franchement, prenez-le. Surtout que, encore une fois, autant le Spider-Woman est à 16 €, on l'avait pas précisé, je crois, parce qu'il y a 7 épisodes. Mais là, c'est vraiment. Alors là, il y a moins de pages. Le 500 est un épisode double, il me semble.
Oui, il fait plus de 40 pages.
Voilà. Et donc, il y a 5 numéros, dont un de 40 pages. Mais c'est vraiment très très bon. C'est vraiment très très bon. Donc il coûte, je crois, 13 €, il me semble.
Et puis si vous voulez lire Daredevil The List sans vous spoiler, faut commencer par ça, donc achetez-le.
Oui, voilà, aussi, oui. Surtout, ne lisez pas The List avant de lire ça. Lisez celui-là, et ensuite lisez Daredevil The List, et alors là, vous serez paré pour la suite.
Qui est justement le tout début d'Andy Deagle sur Daredevil, et qui prend vraiment ça repart vraiment de la dernière page de quasiment de Daredevil 500.
Tiens, si je peux faire une remarque aussi, oui, un truc qui m'a marqué, qui m'a un petit peu titillé dans cet épisode, c'est un moment, tu sais, t'as Dakota North au fait qui prend Lady Bullseye en photo,
mm-hmm.
Et Lady Bullseye, tout de suite, elle fait, on est observé, tu vois. Elle sent tout de suite que quelqu'un la prend en photo. Et rappelle-toi l'arc précédent, oui, c'était exactement ce que je te disais. Matt Murdock avait été pris en photo par un journaliste, tu sais, du haut d'un immeuble à côté, et il avait rien senti et ça m'avait un petit peu choqué. Et, finalement, c'est resté inexpliqué.
Elle était trop absorbée dans ce qu'il faisait, peut-être.
Oui, oui, voilà, ça doit être ça. Non, enfin voilà. Donc c'est un détail, certes, mais ben, finalement, ce qui m'avait un petit peu titillé dans le dernier épisode, enfin dans le dernier arc, c'était, il semble-t-il, une petite erreur, quoi. Bon, c'est une erreur pardonnable, hein. c'est pas dramatique, mais voilà. En tout cas, celui-là est très très bon.
Bien, ben, c'est la fin donc de nos reviews de cette quinzaine. Bah, y a quand même du bon. Hein.
Ah oui, oui, largement. Ouais. Bon. Il y a le Daredevil, il y a le Action Comics, enfin le DC Universe hors série 18, je crois.
Oui, 18, c'est ça. Et puis Marvel Saga.
Et le Marvel Saga, ouais, ouais, le Marvel Saga, qui sont très très bons. Et puis il y a peut-être d'autres choses qu'on n'a pas reviewées. Il y a de fortes chances que The Boys et The Authority, Kevin le Magnifique, ne soient pas trop mal non plus.
Voilà.
Un petit mail.
Oui, on a reçu un mail. Donc un mail de louange, ça fait plaisir. De Dagon, qui nous remercie. Je vais pas lire en entier parce qu'il est assez long. Et je ne vais pas trop déborder sur le temps. Il nous remercie pour nos podcasts. Il trouve ça vraiment bien. Et voilà, il nous dit, enfin, il nous propose une petite suggestion. Il dit, quand je vois l'investissement financier que représente le podcast pour vous et le plaisir que je tire à vous écouter, je me demande s'il n'y aurait pas un moyen pour nous de vous aider. Bien sûr, je ne vous propose pas de vous offrir vos comics, je suis un pauvre étudiant, mais je me disais qu'il serait possible de mettre en place un système de dons PayPal pour l'hébergement du site. Une fois le montant atteint, le système s'arrête. Après, vous êtes peut-être complètement contre l'idée de vous faire aider, ce que je comprendrais tout à fait, mais j'avais envie d'amener mon aide à la vie de ce site. Voilà. Et donc, il espère que l'idée ne choquera pas et que Comic City continuera pendant encore longtemps. Voilà. Donc, bah, le système de dons PayPal, c'est vrai qu'on y avait pensé. On l'a pas mis en place pour le moment parce qu'on n'a pas... Enfin, voilà, on avait envisagé l'idée sans forcément avoir défini une timeline pour ça. Peut-être que ça viendra. On n'est pas contre l'idée. Maintenant, c'est vrai que le système de dons, c'est pas une obligation. Ça pourrait nous aider, c'est sûr qu'il y a quelques frais avec le serveur, ce genre de choses-là. L'hébergement, c'est pas gratuit malheureusement. Je sais pas. Peut-être qu'on le mettra en place à un moment ou à un autre. De toute façon, on vous tiendra informé. C'est pas une idée qui nous déplaît, mais en même temps, c'est vrai qu'on se sent un petit peu... Enfin, c'est toujours difficile de demander de l'argent.
Bah ouais, enfin, de toute façon, on en parle quelquefois, parce que c'est vrai qu'avec l'achat des comics, le temps qu'on y passe, etc., c'est vrai que c'est un investissement énorme, surtout Steve qui fait le montage. donc voilà, donc on passe énormément de temps à faire Comic City, c'est vrai qu'on serait pas contre non plus recevoir quelques dons, ne serait-ce que pour payer le serveur, c'est vrai que ça pourrait être utile. Le truc, c'est que, bah oui, bah pour le moment, on l'a pas mis en place. Bah comme tu dis, ça pourrait venir un jour. Et dans ce cas-là, bah si vous êtes une âme charitable, eh bien, voilà, on pourra recevoir éventuellement vos dons. Voilà, c'est enfin oui, ce serait effectivement pas mal pour comment dire, vous proposer encore plus de Comic City avec encore plus de moyens, de qualité, etc., parce qu'il faut dire qu'aussi on enregistre avec les moyens du bord. Donc voilà, donc pourquoi pas, de toute façon on vous en reparle dès qu'on aura fixé un plan là-dessus et prochainement.
Ouais. Peut-être pas si prochainement que ça, mais enfin bon, c'est vrai qu'on y pense, et puis bah si vous trouvez pas l'idée choquante, que l'idée vous plaît, que vous êtes prêt à nous aider, laissez-nous un petit commentaire aussi, quoi, on verra, c'est vrai que c'est...
De toute façon, faut préciser, Steve, que beaucoup de forums, par exemple, hein, fonctionnent là-dessus, c'est-à-dire que on peut y participer sans payer quoi que ce soit.
Bien sûr, oui, ça n'a aucun caractère obligatoire, bien évidemment.
Voilà, tout à fait, ouais. C'est de toute façon, dites-vous bien que on fera pas de podcast payant.
Hein. Jamais.
Pour le moment, c'est absolument pas l'ordre du jour.
Jamais, c'est pas l'intérêt, quoi.
Voilà.
On fait aussi ça par passion, ce qui fait que voilà.
Voilà, exactement. Donc
rien que les messages de louange qu'on reçoit nous font vraiment, vraiment, vraiment plaisir.
Voilà. Donc si jamais un jour on a vraiment besoin de sous-sous, on vous le fera savoir. mais voilà, ce sera, il y aura aucun caractère obligatoire que ce soit bien clair.
Voilà. Et donc Steve. Pour continuer dans les frais. Hein, puisque quand on parlait du fait qu'on a des frais, nous venons de mettre en place un nouveau moyen de nous contacter, donc bah, en plus des commentaires et des mails, vous pouvez maintenant nous laisser vos messages vocaux.
Et là, c'est la fête quand même.
Et vous serez diffusé à l'antenne.
Enfin, on va essayer dans la mesure du possible, parce que si vous êtes vraiment très très nombreux et que vous nous posez plein de questions, bon, va falloir faire une sélection, mais dans tous les cas, oui, bah vous pouvez laisser vos messages à partir de maintenant, ce qui est quand même pas mal, puisque bah, y a peu ou pas pour le moment en France de sites comics sur lequel vous pouvez laisser des messages vocaux.
Oui, en même temps, il n'y a
donc
pas de
Comic
podcast.
City. Comic City lance cette expérience et bah allez-y, voilà, une question, une recommandation, une demande, ce que vous voulez, hein, franchement, ce que vous voulez, bon, on reprend avec les comics dans la mesure du possible.
Et par pitié, faites pas trop trop long comme message, parce
oui,
que
pas comme nous. Voilà.
Voilà, essayez d'éviter de dépasser les deux minutes de message, parce que sinon c'est indiffusable, quoi.
Non, sinon vous êtes pulvérisé par un rayon de d'or.
Alors, pour nous laisser un message vocal, vous prenez Skype et vous ajoutez Comic City en ami, la procédure est automatique, et vous pouvez nous laisser un message avec votre micro de portable ou d'ordinateur, enfin ce que vous avez, et vous pouvez nous laisser un message comme ça. Ou sinon, il y a aussi un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 09 70 440 497. Et donc, vous pouvez laisser un message sur le répondeur de Comic City par ces deux moyens.
Alors, précisons, Skype donc est gratuit d'installation.
Oui, c'est un programme entièrement gratuit.
Par contre, le numéro de téléphone.
Le numéro de téléphone est un numéro national, donc pas de surtaxe, quoi que ce soit.
D'accord, pas de surtaxe. Mais par contre,
un appel c'est... normal, quoi.
Voilà, d'accord, un appel normal au prix normal, quoi.
Voilà.
Ok. Par contre, oui, Skype, c'est gratos, mais évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, parce que tout le monde n'utilise pas Skype non plus, il vous faut un micro.
Sans micro, ça marche moins bien.
Et voilà. Non, ça semble logique comme ça, mais on n'y pense pas forcément. Voilà. Donc,
vous avez les commentaires, vous avez le mail, donc je rappelle l'adresse podcast@comiccity.fr. Et maintenant, le répondeur, soit par Comic City, vous ajoutez le contact sur Skype, ou le numéro, que je rappelle, 09 70 440 497. Voilà. Donc, vous avez tous les moyens de nous poser toutes les questions que vous voulez.
C'est pas du tout un numéro pour envoyer des dons, hein, ne vous inquiétez pas.
Non,
pas parce qu'on vient de parler des dons que...
Non, du tout.
Rien à voir.
Comic Soto.
Et puis sinon, vous pouvez aussi nous laisser des coms sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter...
Bien sûr. Vous avez aussi tous les podcasts sur iTunes, comme toujours. Et n'oublie pas de faire un petit coucou à nos partenaires de Capt Chronicles. D'ailleurs, je mettrai le lien de la vidéo, j'avais oublié de préciser tout à l'heure dans les news, le lien de la vidéo pour la bande-annonce de Walking Dead directement sur le site de Capt Chronicles. Je mettrai le lien dans le minutage.
Voilà. Et oui, faites-leur un petit bonjour, sachant que c'est eux que vous avez pu entendre, notamment dans le Comic City Chronicles numéro 0. Donc voilà.
Ça allez leur parler de toutes ces choses magnifiques.
Voilà, qu'on a pu
du Fist Center.
Oui, c'est ça, exactement. Et puis de chaussettes, de dentifrice Green Goblin et de tout ce qu'on a pu parler.
Et bien sûr de Grant Morrison.
Et de Grant Morrison.
Bien évidemment. Donc sur ce, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour le début du mois de septembre. Enfin les première parution du mois de septembre et puis sur des podcasts type Comics Weekly, hein, toutes les semaines aussi, pour ceux qui lisent la VO.
Et puis dans de futurs spéciaux aussi quand même. Il y en aura d'autres, malheureusement. Voilà.
Et donc c'est sur cet horaire super tardif de 1h du matin que nous arrêterons l'enregistrement et je vais aller pioter vu que je suis levé depuis 6h.
Très bien.
Voilà.
Et moi, je vais aller regarder, je sais pas, du Nip Tuck, tiens, pour ceux que ça intéresse.
Voilà.
Très bien.
Peut-être que je mangerai une pomme avant de me coucher, d'ailleurs.
Eh ben, très bien. Moi, ouais. Je mangerai, non, je sais pas, aller un peu, puis ils sont là.
On remballe, on s'enfonce. Ouais. Comme d'habitude, d'ici le prochain podcast, portez-vous bien.
Allez, ciao à tous.